Oui, alors bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Passerelle, l'émission qui crée des liens et qui vous fait voyager dans l'espace et le temps.
Time Trap a prouvé que le voyage dans le temps finira bel et bien par exister un jour.
C'est plus de la fiction et puis je trouve le concept tellement sympathique.
On a vouloir créer un lien.
Faire
voyager dans le temps, moi j'y croyais pas trop.
Welcome aboard, ladies and gentlemen.
Alors je suis toujours accompagnée de Gudule, ma curieuse machine à voyager dans le temps. Et aujourd'hui, puisque le thème de cette journée de la radio est le paysage sonore, je vous propose d'explorer le thème de l'histoire du paysage en jouant un petit peu avec le son et avec votre imagination pour vous proposer un jeu de piste. Oui, un jeu de piste qui vous emmènera à l'intérieur des tableaux des musées, qui vous fera remonter le temps, voyager aux États-Unis, en Chine ou au Japon, nous emmènera du côté de la géographie, de la science, de l'art et de la littérature, tout ça avec un but, tenter de définir le paysage. Alors tenez-vous bien, le départ est imminent.
Doit ressentir le mystère d'un lieu étrange, frissonner devant les éléments déchaînés, s'extasier face à un point de vue grandiose.
Constitue un petit paysage sonore.
Et s'il existe, selon vous, une solution d'urbanisme pour Paris?
Son humilité devant le paysage.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
L'ancien passe paysage d'hiver.
La déferlante Front National est en train de dévaster le paysage politique français.
À la peinture de paysage.
Vous éprouvez corporellement le paysage.
Alors, commençons ce voyage par un tour du côté de la peinture, et plus précisément l'histoire de la peinture de paysage. Alors fermez les yeux, vous êtes ailleurs. Minuit. Aucun bruit. Vous êtes seul dans un musée désert. Au mur, les tableaux semblent vous parler. Vous commencez à avancer vers une petite salle encore éclairée. Sur le mur, un écriteau et une question, pourquoi donc s'intéresser à la peinture de paysage? Et en dessous, un petit texte est affiché pour vous répondre, un petit texte qui vous parle de la théorie d'Alain Roger. Alors pour lui, c'est l'art qui permet de passer du pays, qui serait le degré zéro du paysage, au paysage lui-même. Comment? Eh bien par l'artialisation du réel. En fait, c'est par la médiation de l'art qu'un espace devient paysage. D'ailleurs, pour Alain Roger, ce n'est pas l'art qui imite la nature, mais l'inverse. C'est la nature qui est modelée par l'art. C'est l'art qui façonne notre regard et notre manière de voir les choses par les modèles qu'il impose. Un exemple, pour lui, si les gens commencent à parler du brouillard londonien au XVIIIe siècle, c'est parce que les impressionnistes l'ont peint. De même, si la montagne Sainte-Victoire vous semble magnifique, c'est parce que Cézanne la représentait dans ses tableaux. Bref, à retenir, c'est l'art qui transforme notre vision et qui transforme le pays en paysage. Alors, convaincu par cette théorie, vous avancez et vous décidez d'explorer l'histoire de la peinture de paysage. Vous entrez dans la salle suivante. Autour de vous, des peintures de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Mais en balayant de regard l'endroit où vous vous trouvez, vous remarquez que des paysages, eh bien, il n'y en a pas. Et en effet, avant la Renaissance, on n'emploie pas le mot « paysage ». Le paysage sert à mettre en valeur le sujet et l'action du tableau. En bref, c'est seulement un fond. Ou alors, il a une valeur symbolique. Dans l'Antiquité, il permet de représenter une nature investie par une puissance divine. Ou alors, au Moyen-Âge, il remplace les fonds dorés des tableaux religieux, mais il reste soit un reflet de la perfection de la création divine, donc de la nature, soit un symbole. Par exemple, sur le tableau face à vous, le paradis est représenté par le ciel bleu et Dieu par une montagne. On est du coup, pour Augustin Berg, que dans des sociétés proto-paysagères. En gros, il y a certes une sensibilité à la nature, mais pas encore assez de recul de l'homme face à la nature, et pas encore, du coup, l'emploi du mot paysage. Nouvelle salle. Cette fois-ci, les tableaux datent du XVe siècle et ont été réalisés en Flandre lors du siècle d'or hollandais. Et vous remarquez un premier basculement. Autour de vous, vous voyez des paysages peints pour eux-mêmes et non comme élément de décor. Vous l'avez bien senti. C'est à ce moment, au XVe siècle donc, que naît la peinture de paysage et qu'apparaît le mot paysage, landscape en hollandais, paesaggio en italien, désolé pour l'accent. Cette salle, en fait, témoigne donc de l'invention du paysage occidental. Et d'ailleurs, pour citer encore une fois Alain Roger, le paysage occidental a nécessité deux grandes évolutions. D'abord, on assiste à la laïcisation des éléments naturels, et puis ensuite à leur autonomie, c'est-à-dire qu'ils existent maintenant indépendamment du sujet du tableau. Alors oui, Gudule, calme-toi, les exemples arrivent. Dürer, par exemple, est le premier à peindre des paysages sans personnages. Et si vous regardez autour de vous dans cette salle de musée, vous remarquerez un détail que l'on trouve dans plusieurs tableaux. Au fond, quelque chose de tout à fait banal. Vous ne voyez pas? Eh bien, c'est la fenêtre, ou veduta en italien, une fenêtre qui permet de soustraire le paysage au sujet sacré du tableau. Mais on a aussi des paysages bien plus vastes, comme ceux de Joachim Pattinir. L'espace est immense et englobe tous les processus physiques et tous les milieux possibles, puis pluie, gel, montagne, village, mont, village et océan. Pour la première fois, le personnage se loge dans le paysage et non l'inverse, et le peintre cherche à nous donner à voir une vision cosmique et totalisante de l'univers, on parle même de paysage-monde. Plus loin, un paysage de neige de Bruegel l'Ancien, un autre d'Averkamp, et sur le mur d'en face, la vue de Delphes de Vermeer, mais partout la même idée, le paysage devient considéré pour lui-même. Ça y est, vous avancez encore, nouvelle salle, toujours déserte. Le XVIIe siècle, nouvelle étape dans l'histoire du paysage. Alors vous voyez bien en observant les œuvres exposées qu'en France, le genre du paysage reste encore un genre accessoire et que pour voir leur peinture de paysage acceptée, les artistes comme Poussin ou Claude Lelorrain doivent inclure ce paysage à un sujet mythologique ou religieux. La preuve avec les titres des tableaux de Lelorrain, paysage avec le voyage de Jacob, paysage avec Abraham, paysage avec la tentation de Saint-Antoine et j'en passe. On est également en plein dans la période du classicisme et les paysages sont peints avant tout pour respecter des règles de composition strictes et refléter une nature idéalisée. C'est d'ailleurs à cette époque que se développent les paysages pastoraux ou champêtres, ou les paysages héroïques, qui représentent une nature grandiose et domptée par l'homme. Regardez d'ailleurs cette vue de Lelorrain, caprice avec les ruines du forum romain, il y a la lumière qui magnifie la scène, la majesté des ruines, et une nature forgée et façonnée par l'activité humaine. Et puis enfin, dernière étape, une salle immense. Vous êtes au XIXe siècle et tout s'accélère. Le paysage devient un sujet de prédilection pour les artistes et se succèdent plusieurs types de paysages. Le paysage romantique d'abord, avec le voyageur au-dessus de la mer de nuages de Friedrich. Mais bon, ça va, j'ai le droit parfois de manquer d'originalité. Mais tout ça pour dire que le paysage a une nouvelle fonction, il devient un miroir de l'âme et reflet des sentiments et des émotions. Viennent ensuite les paysages de l'école de Barbizon, censés représenter la beauté de la nature préservée de la modernité. Puis, dernière étape de notre périple, les paysages impressionnistes, avec des peintres comme Sisley, Monet ou Pissarro, qui peignent sur le motif et nous donnent à voir, je cite Proust, « l'essence de l'impression qu'une chose produit, essence qui reste impénétrable pour nous tant que le génie ne nous l'a pas dévoilée. Ce qui compte, c'est donc l'impression et les sensations. Le paysage parle à l'âme et au sens et ne doit pas être dépeint tel qu'il est, mais tel qu'il est ressenti. » Et puis au XXe siècle, le paysage en tant que tel laisse place à un espace investi de la subjectivité de l'artiste avec les fauves et les expressionnistes et pensons par exemple ensuite aux surréalistes avec les paysages entre guillemets de Dali. Hop, petit... Ah oui, notre jeu de piste. Eh bien, tu sais quoi, après notre périple dans ce musée, je pense qu'on peut retenir une notion. Le paysage est toujours investi de subjectivité, et c'est une notion très mouvante. En bref, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas de définition, mais simplement une théorie, celle d'Alain Roger, le paysage est créé par l'art. Oui bon d'accord, puisque je vois que tu t'ennuies et que tu nous parles de jeu, je te propose comme deuxième étape de notre jeu de piste de résoudre des énigmes.
Élémentaire, mon cher Watson.
Oh, ça va, joue le jeu un peu. Parce que oui, derrière la peinture de paysage, il y a souvent un message caché qui, je te donne des indices, peut être religieux ou idéologique. Premier message caché. Regardez ce paysage d'hiver de Bruegel. Sur la glace, toutes les classes sociales confondues jouent au patin, courent dans la neige et s'amusent. Certes, mais en fait ce paysage n'est pas totalement réaliste, puisqu'en réalité les pauvres souffraient de la rigueur de l'hiver. Le tableau sert en fait à diffuser l'image d'une Hollande unifiée et contribue à forger une identité nationale fondée sur un idéal social. Derrière le tableau, il y a donc bien un but. Tu l'avais vu ça, Gudule ? Tiens, je te laisse une deuxième chance et un indice. Dans l'œuvre dont je vais te parler, la logique est la même. Regarde ce paysage peint par l'anglais Gainsborough. Une campagne anglaise splendide et accueillante, en harmonie avec les hommes qui travaillent la terre. Eh bien, pour l'historien d'art David Solkin, il s'agit en fait d'un moyen de passer sous silence la précarité des conditions de travail des ouvriers agricoles et leur exploitation par les classes dominantes. D'ailleurs, le paysage pourrait aussi offrir un modèle pour concevoir une identité européenne, et pour en savoir plus, je vous invite à lire l'œuvre de Anne Birmingham dans Landscape and Ideology, un titre qui reflète bien l'idée que je vais vous faire passer. Allez, dernière énigme pour la route. Regardez maintenant ce paysage de Pattinir. Un vieil homme debout sur une barque vogue entre deux rives. À sa gauche, une nature luxuriante dépeinte avec minutie, arbres, herbes, roseaux, lacs, animaux, tout y est. Et à sa droite, un monde sombre de feu et de flammes. Tu as compris la symbolique ? Bon, ok, je t'explique. Dans ce tableau, Pattinir s'inspire pardon, de l'Énéide et nous montre le trajet d'une âme après sa mort, tiraillée entre deux rives, paradis ou enfer. Et le peintre nous livre un message moral. Sur la rive du paradis, le chemin pour accéder au paradis est semé d'embûches et d'obstacles, alors que sur l'autre rive, la route pour les enfers est plaisante et champêtre. Donc tu vois, Gudule, derrière ces tableaux de paysage se trouvent souvent des messages, des allégories ou des énigmes. Alors vous voyez bien qu'en parlant de la manière de représenter le paysage, on évoque aussi tout un tas d'autres sujets. Le rapport de l'homme à la nature, l'importance donnée aux émotions, etc. Comment ça à la suite? Bah attends, ça vient. Je te propose une petite histoire du paysage français, simplifiée bien sûr, mais tu vas voir, assez surprenante. Au XVIe, c'est surtout la campagne qui est valorisée comme un espace ordonné et apprivoisé par l'homme. Mais au XVIIIe, naissent de nouveaux paysages comme la montagne. Avant, elle était associée à un pays affreux, mais par le travail des peintres, des graveurs et des écrivains comme Rousseau, elle devient un paysage sublime, à la fois terrible et grandiose. Naît aussi au XVIIIe le paysage de mer. Une mer d'abord paisible et apprivoisée, puis violente et sublime, et liée, comme le rappelle Alain Corbin, à la répulsion, en particulier car elle rappelle, le déluge et les catastrophes. Puis enfin, cette mer est artialisée, encore un terme d'Alain Roger, par des écrivains comme Hugo, Melville ou Chateaubriand, qui contribuent en quelque sorte à éduquer les regards. Et plus récemment, naît un nouveau type de paysage, le désert. Et écoute ça, Gudule, c'est particulièrement intéressant. Avant, le désert s'associe à un lieu inhospitalier et hostile, la preuve par exemple avec la traversée du désert comme épreuve dans la Bible. Ensuite, le pays devient paysage avec la mécanisation et la découverte des réserves pétrolières. Mais ce paysage est étonnant. Pourquoi ? Eh bien parce que l'on associe au désert le sable, donc l'ergue, alors qu'il est en fait majoritairement composé de roches, donc de règues. Et ça, c'est un fait qui pourrait s'expliquer par la projection esthétique du modèle marin sur le désert. En bref, par le truchement de l'art, un paysage qui n'est absolument pas fidèle à la réalité, ou pas exactement, va s'imposer au regard. Alors oui, on a vu maintenant comment s'inventent de nouveaux paysages, mais on pourrait peut-être revenir un peu en arrière. Sous la Troisième République, le paysage a une fonction idéologique et sert à rappeler la perfection et l'histoire du territoire français. Alors, pour t'en convaincre, je te propose de lire un extrait du Tour de France de deux enfants, qui était le manuel scolaire de la Troisième République et qui retrace le parcours de deux enfants qui traversent le paysage français.
Comment s'appellent ces montagnes qui ondulent là-bas à droite ? Ce sont les montagnes qui entourent Toulon, répondit le père Jérôme. Toulon est là-bas tout au fond. Voilà encore un port superbe. Seulement, ce ne sont plus guère des navires de commerce qui s'y abritent comme à Marseille. Ce sont des vaisseaux de guerre. Car Toulon est notre grand port de guerre sur la Méditerranée. Là, tout est bardé de cuivre ou de fer. Tout est cuirassé pour résister aux boulets ennemis. Et de chaque côté du pont, on voit les gueules menaçantes des canons. Notre flotte française, la plus forte après celle de l'Angleterre, compte en tout 230 bâtiments de guerre environ. Julien voyait se succéder devant lui les côtes et les golfes de Provence bordés de montagnes. Quelle superbe contrée, disait le patron Jérôme, que cette Provence toute couverte d'oliviers, de pins et d'herbes odorantes. C'est mon pays, ajouta-t-il fièrement. Et vois-tu, petit, à mon avis, c'est le plus beau du monde.
Alors maintenant, une autre étape, Gudule, dans cette très brave histoire du paysage ? Eh bien, dans les années 1960, petit bond en avant, le paysage devient quelque chose à préserver. Se multiplient du coup les lois sur les monuments historiques, les espaces verts, les parcs régionaux, les littoraux et les montagnes, et j'en passe. Puis en 1933, la loi paysage qui donne un statut officiel au paysage. Alors tout ça, c'est très beau, mais ces questions de préservation ne séduisent pas totalement Alain Roger. Alors oui, pourquoi ? Moi aussi, ça me semblait très bien, ces mesures. Mais en fait, pour Alain Roger, on lit paysage et environnement, alors que ce sont en fait deux notions très différentes. Oui, je t'explique pourquoi, deux secondes. L'environnement, c'est un concept récent, d'origine écologique et d'inspiration scientifique. Alors que le paysage, lui, c'est une notion plus ancienne, née de la peinture et essentiellement esthétique. L'erreur que l'on fait, selon lui, c'est de lier valeur paysagère et valeur écologique. Dans la loi paysage de Ségolène Royal, par exemple, on parle de préserver et de conserver le paysage. En fait, on lui assigne des valeurs écologiques qui ne sont pas les siennes, et on entretient du coup une vision archaïque du paysage. Il parle aussi, c'est intéressant, du complexe de la balafre. En fait, ingénieurs et techniciens sont culpabilisés pour défigurer le paysage en construisant des autoroutes, par exemple, qui ont un impact négatif sur l'environnement. Or, cette autoroute, elle constitue en elle-même un authentique paysage, et elle en produit de nouveaux. Moralité, l'artiste doit donc élaborer de nouveaux modèles pour artialiser et rendre beaux ces nouveaux espaces dans lesquels nous vivons. Oui, en bref, pour notre jeu de piste, nous avons un nouvel indice, à nous donc de façonner le paysage et de rendre beau le quotidien. Et d'ailleurs, en parlant d'art, on peut parler ici des land artistes qui pratiquent le land art, une forme d'art contemporain qui crée des installations éphémères à partir de la nature et des éléments naturels. Andy Goldworthy, par exemple, travaille en plein air avec des matériaux trouvés sur place. Et pour lui, le paysage, c'est un partenaire de travail. Il ne veut pas apposer sa marque sur le paysage, mais plutôt travailler avec lui pour donner à voir l'harmonie avec le monde naturel et le passage du temps, étant donné que toutes ses œuvres sont éphémères, soumises à l'érosion et aux variations de la lumière. Et Goldworthy nous invite aussi à parcourir le paysage. Il a par exemple réalisé en Haute-Provence des cairns en pierre, des sentinelles, et propose un parcours réalisable en 10 jours de marche qui relie ses refuges qui chacun abritent des œuvres d'artistes. Le paysage, c'est donc un partenaire de création. Autre exemple de land art pour aiguiser votre curiosité. Au Canada, Nicole Dextra s'écrit en lettres de glace le mot « vue » sur une banquise. Le but, voir les lettres fondre et le paysage évoluer. Le paysage, c'est un élément en permanente évolution. Et enfin, dans le village de Jogac, Gaëlle Villedry fait courir dans toute la commune un tapis non pas rouge, mais un tapis de gazon. Elle surprend, elle interroge notre perception des choses, elle insuffle un peu de vie dans ses rues goudronnées. Et Benoît Delomé, lui, réalise une œuvre surprenante. Il place en haut d'une colline des sculptures cubiques de miroirs et de verres et bouleverse notre perception d'un paysage pourtant familier. Je vous invite à voir des photos. Le paysage, c'est un élément pour interroger. En bref, pour résumer l'approche Land Art, j'emprunte les mots de Jean-Yves Piffard qui utilise Pierre et Galet pour façonner l'espace quotidien.
Je réalise un travail dans et avec la nature. Les éléments de la nature sont les tubes de couleurs. Le Land Art représente une véritable démarche artistique. J'ai envie d'un art épuré, qui fait du bien à l'âme et au cœur. Je n'ai pas de conviction écologique pure et dure, mais le Land Art est pour moi un acte artistique qui propose un regard différent sur les relations des hommes avec la nature. En ce moment, la nature est malmenée par les hommes. Mais ce sont les hommes bien plus que la nature qui sont pour moi un sujet d'inquiétude.
Alors, on vient donc d'entendre cet extrait donc de Jean-Yves Piffard, et tu as raison que pour terminer cette première partie d'émission et continuer ce jeu de pistes, Gudule, pourquoi ne pas voyager cette fois non plus dans le temps, mais dans l'espace ? Non, Gudule, stop, tu vas pas commencer. Emmène-nous plutôt comprendre la manière dont on considère le paysage ailleurs. Un peu de sérieux, s'il te plaît. Très bien, nous voilà donc en Chine. C'est intéressant puisque contrairement à l'Occident, où le paysage naît au XVe siècle, on l'a vu, la Chine est très tôt une société paysagère. On a d'ailleurs deux mots pour parler de paysage. Fenjing, qui signifie littéralement « vent haut » et évoque lui l'ambiance du paysage, et puis Shanshui, ou « montagne haut », qui désigne les représentations du paysage comportant des inscriptions calligraphiées, des représentations qui relatent l'harmonie entre l'homme et le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, le paysage est d'abord une vision idéale ou l'évocation d'un souvenir, avant d'être une représentation fidèle d'un motif réel. L'artiste travaille donc parfois sans avoir vu le site qu'il veut peindre, mais à partir de ses sensations, souvenirs et pensées. On a aussi beaucoup d'écrits sur le paysage et l'utilisation de la théorie du yin et du yang dans la peinture de paysage, la montagne correspondant au yang et l'eau au yin. En fait, en Chine, le paysage vaut avant tout pour sa résonance intérieure. D'ailleurs, les théoriciens chinois du paysage emploient dans leur réflexion plusieurs couples de notions, comme proche-lointain, invisible-visible, et ils accordent une attention particulière au paysage au-delà du paysage, c'est-à-dire au prolongement vers l'invisible que suggère l'horizon. En bref, le paysage doit devenir un sentiment paysage, un sentiment qui serait résultat d'une rencontre entre le moi et le monde. En bref, le paysage est produit d'une expérience sensible et sensuelle qui lie l'homme et le monde. Alors nous voilà maintenant au Japon, un monde dans lequel, pour passer rapidement, il existait une cérémonie du paysage, le kunimi, mot à mot, regarder le paysage, une cérémonie dans laquelle un empereur faisait l'ascension d'une montagne et portait son regard au loin pour signifier sa souveraineté sur le territoire. Le paysage, c'est donc aussi quelque chose que l'on peut dominer. Alors partons maintenant pour un univers totalement différent, celui des États-Unis. On peut retenir le travail d'une école importante, l'Hudson River School, un mouvement pictural inspiré du romantisme européen. Pour ces peintres, la nature, la wilderness, est associée au sublime. C'est la manifestation sauvage d'une beauté divine. Naît ensuite le luminisme, avec des peintres qui adoptent une représentation moins grandiose et plus intime de la nature, centrée sur l'importance des effets de lumière. La grande idée, c'est que, je cite Ralph Waldo Emerson, la nature est l'alphabet de Dieu, un message de Dieu auquel il faudrait se confronter pour la transformer en un espace maîtrisé par l'homme et contrôlé par lui. Pour les transcendantalistes d'ailleurs, la beauté viendrait de la nature et serait corrompue par les sociétés et les institutions. Le paysage, c'est donc ce qui est formé de la main de Dieu et qu'il faut déchiffrer. Ah, alors dernière escale, l'Angleterre, nous avons atterri en plein cœur d'un jardin anglais. Ah, oui ok, j'ai compris où tu voulais en venir. Au 18e en Angleterre, les jardiniers, comme William Kent par exemple, créent des jardins inspirés de peinture. De partir de Claude Lorrain, de Van Goyen, de Ruzel, etc. On parle du coup de landscape gardening. Cette vision nous montre donc une volonté de paysager et d'artialiser le réel, et ça, ça devrait vous rappeler la thèse d'Alain Roger, oui je sais, je radote un peu. Bref, après cette histoire du paysage, je vous propose maintenant, pour continuer notre jeu de pistes, de passer à la deuxième partie d'émission, la tambouille, qui mêle les disciplines et les domaines pour vous donner du grain à moudre. C'est parti. Alors déjà, je vous propose de parler un petit peu d'écologie. Quel est le lien entre paysage et écologie et que nous dit-il ? Eh bien d'abord, le paysage permet de nous interroger sur les rapports entre nature et culture et a inspiré à certains, comme Michel Serres, l'idée d'un contrat naturel, d'une symbiose retrouvée entre l'homme et la nature mythifiée et personnalisée. Mais Alain Roger, lui, s'oppose totalement à cette vision. Pour lui, la véritable écologie ne doit pas s'appuyer sur un contrat métaphorique avec une nature personnifiée. Plutôt que de conclure à une alliance symbolique avec la forêt, par exemple, il faut plutôt se bouger et conclure des négociations avec ceux qui la dilapident pour préserver les intérêts de l'humanité. Ah, ça t'inspire cette interrogation ? Je crois du coup que tu veux encore nous faire faire un petit tour du côté de l'art. Alors très bien, mais cette fois-ci en s'intéressant aux artistes contemporains. Tu as raison d'ailleurs, montre-nous comment l'art contemporain interroge le paysage. Alors on pourrait d'abord parler de la photographie. Puisque dans ses paysages miniatures, Arnaud Classe isole des fragments de végétation dans un espace sans profondeur ni perspective, ou alors dans périphérie, il mêle des morceaux en désordre d'un paysage suburbain. En bref, on n'a plus de vision d'ensemble, mais des vues partielles et dispersées, et une photographie qui renouvelle l'image du paysage en le déconstruisant grâce aux ressources de la technique. Ensuite, impossible de parler du paysage sans parler un petit peu de géographie et de philosophie. Et qui dit géographie dit déambulation, mouvement dans l'espace, alors je vous propose une petite balade sonore et théorique dans votre quotidien pour vous faire découvrir les points de vue de plusieurs géographes et tenter de définir le paysage. Première escale, la ville. Les voitures, la foule compacte qui se masse derrière des artères bondées, les briefs de conversation qui montent jusqu'aux derniers étages des immeubles de verre, qui observent froid et austère, le balai incessant des badauds désorientés qui évoluent machinalement dans ce monde gris et aseptisé. Première définition du paysage, celle de Thierry Pacot. Il existe un paysage urbain qui se parcourt, se visite, se remémore, exige un mouvement permanent. C'est un transport et non une image. Deuxième étape. Vous filez sur l'autoroute. Autour de vous, il y a la campagne muette et les champs à perte de vue. Sur le côté de la route, des panneaux vous suggèrent quoi regarder et quoi apprécier. Une cathédrale, un champ qui a aussi été peint dans un célèbre tableau de Van Gogh. Deuxième idée. On assiste, pour Thierry Pacot, à une mise en paysage du monde. Le beau, le laid, tout devient prisonnier de valeurs collectives. Mais les mains sur le volant, vous n'êtes pas d'accord. Vous préférez écouter Lucien Kroll, pour qui le paysage est produit non pas par des décisions administratives, mais par les actions des habitants, qui tissent des rapports entre les choses. Le paysage n'est pas une marchandise, mais c'est un ressenti et un site qui fait sens. Vous êtes d'ailleurs bien d'accord avec l'Américain John Brinkenhoff Jackson, qui explique qu'il y a deux paysages. Un paysage politique, produit par le pouvoir, et un paysage vernaculaire, fabriqué localement par les habitants. Troisième étape. Arrivé à la mer pour une semaine de vacances. Il y a l'odeur du sable et le cri des mouettes. Debout face à l'immensité de l'océan, vous observez le balai des vagues, le silence de la mer, les navires chahutés par la houle. Et ce paysage remue quelque chose en vous. Il parle à votre âme, il vous prend aux tripes. Vous pensez alors à la thèse de Dardel, ce géographe français du début du XXe, auteur de L'homme et la terre. L'auteur s'intéresse aux liens affectifs et sensibles entre l'homme et la terre qu'il habite. Pour lui, il faut faire l'expérience du monde. Il y a une terre vécue, une terre sentie. Il parle alors de géographicité pour définir la relation complexe qui se noue entre l'homme et la terre. Troisième définition du paysage. C'est ce par quoi on a conscience de l'être et des choses. Il faut donc être au paysage, se sentir traversé par lui pour éprouver le Dasein, l'être au monde. En bref, pour Dardel, les espaces sont d'abord vécus. C'est d'ailleurs un des progrès, un des premiers à lier géographie et phénoménologie. Et face à votre paysage marin, vous êtes bien d'accord. D'ailleurs, Heidegger, lui, parle de Stimmung, le sentiment de la situation. Alors oui, la traduction de l'allemand est très moche, mais l'idée, c'est qu'il y a une union entre un spectacle extérieur et sa résonance intérieure. Quatrième étape. Vous rentrez chez vous et vous décidez d'errer en ville, d'explorer un territoire que vous connaissez trop bien, mais que vous regardez trop peu. Et vous épousez les idées de Pierre Donadieu. La société contemporaine est une société paysagiste. Le paysage, c'est devenu une question culturelle et sociale. Et au fil de vos pas, vous découvrez des paysages urbains nouveaux, rebelles, qui échappent à la standardisation et à l'urbanisation incontrôlée. C'est la station Mu à Lyon, par exemple, une parcelle de 750 m² d'espace à coloniser et à fertiliser en mouvement perpétuel. Vous le sentez bien, se développe l'idée d'une ville nature et d'une conciliation entre la ville et son environnement. Cinquième étape. Vous décidez de marcher dans la ville et de vous interroger sur le lien entre la marche et le paysage. Je devrais peut-être alors dans ce cas vous parler de deux artistes. Amish Fulton est un artiste marcheur. Il parcourt le paysage pour réaliser des marche-œuvres qu'il documente par des photographies, des textes ou des dessins. Des éléments minimalistes mais qui permettent de restituer l'émotion du face-à-face avec la nature. La marche devient œuvre, expérience artistique, esthétique et processus créatif. Amish Fulton évoque d'ailleurs le potentiel de transformation de la marche qui optimise la perception et la réceptivité du paysage par l'expérience du trajet parcouru. Richard Long lui aussi marche durant plusieurs jours en pleine nature, il déplace les éléments naturels et les dispose de façon à révéler ce qu'il considère comme l'esprit du lieu. Gudule, maintenant je te laisse piloter. Où est-ce que tu veux nous emmener pour finir ce jeu de piste ? Alors, encore dans le quotidien, d'accord ? Et pour nous parler de science, même si je ne vois pas trop le lien. Le réveil sonne. Levé pénible. Douche, café, médicaments. Médicaments ? Mais tiens, saviez-vous d'ailleurs que les paysages pouvaient soigner ? Eh bien si. On appelle d'ailleurs ces paysages des paysages thérapeutiques. On a par exemple des environnements physiques naturels auxquels on attribue des pouvoirs de guérison, du type l'eau de Lourdes ou du Gange, les arbres, ce qui a engendré la sylvothérapie, mais également des environnements physiques construits, type les stations thermales, ou les lieux saints, comme Lourdes, Épidore, ou les ashrams en Inde, ces ermitages en lieu isolé où un sage vient chercher la paix intérieure. La leçon à retenir, dès qu'il y a attachement au lieu, il peut y avoir paysage thérapeutique, d'où le développement de la psychologie environnementale et de politiques publiques qui cherchent à s'inspirer de ces théories pour évoluer et pour réduire le stress et améliorer la condition des citoyens, comme par exemple les opérations de végétalisation d'hôpitaux en Oregon. Vous rentrez du boulot, vous laissez tomber sur une chaise et savourez enfin un moment rien qu'à vous. Vous ouvrez un bouquin et vous y plongez. Et c'est l'occasion de nous poser une dernière question avant de conclure. Comment la littérature s'est-elle emparée du paysage ? Alors fermez les yeux, tournez les pages de votre livre et embarquez pour une mise en paysage du territoire par les mots. On peut d'abord parler des paysages de René Char, qui transforme sur la page le pays en paysage en lui conférant un sens inédit et en invitant le lecteur à une présence au paysage. Oui, alors, on peut maintenant passer à Julien Gracq, l'occasion d'évoquer une évolution récente du paysage qui est passée de l'in visu à l'in situ. C'est simple, on est désormais dans un paysage à parcourir et plus devant un paysage à contempler. Et chez Julien Gracq, l'écriture est justement liée à cette dimension dynamique du paysage. Écoutons.
Qu'est-ce qui nous parle dans un paysage ? Quand on a le goût surtout des vastes panoramas, il me semble que c'est d'abord l'étalement dans l'espace, imagé, d'un chemin de vie. Tout grand paysage est une invitation à le posséder par la marche. Le genre d'enthousiasme qu'il communique est une ivresse de parcours.
Alors c'est sur ces mots, je pense, que l'on peut conclure cet épisode et ce jeu de piste. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, tu veux savoir le résultat de notre jeu de piste ? Eh bien, rappelle-toi que notre but était de trouver une définition du paysage, je crois en fait qu'on ne l'a pas vraiment trouvée. Mais non, rassure-toi, c'est pas un échec total, au contraire. Ce parcours à travers les âges et les territoires nous a fait comprendre que ce qui fait la beauté du paysage, c'est peut-être justement le fait qu'on ne puisse pas le définir. Qu'il soit en mouvement et qu'il nous interroge encore plus, tantôt en parlant à l'âme, tantôt prenant aux tripes, parfois figé sur la toile, parfois en mouvement, souvent indice du passé et toujours subjectif. Alors pour clore cette émission, je vous invite à regarder les paysages qui vous entourent d'un œil nouveau. Pensez par exemple à l'autoroute dont on a parlé. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission de Passerelle et un nouveau voyage dans le temps et dans l'espace. Restez avec nous maintenant pour un nouvel épisode de Les yeux ont des oreilles, suivi pour clore cette journée de la radio d'une fiction collective riche, je crois, en péripéties.